Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Nous poursuivons notre série d'émissions sur le potager dans la moyenne vallée de l'Hérault. Vous êtes sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, que vous pouvez écouter sur les fréquences 89, 96.7, 102.9 MHz ou en podcast sur l'adresse rphfm.org. Cette émission est diffusée à un rythme mensuel en début de mois. Nous décrivons la pratique du potager en moyenne vallée de l'Hérault avec les membres des semeurs du Lodévois-Larzac, association existante depuis plus de 10 ans, ainsi qu'avec d'autres maraîchers professionnels qui auront la gentillesse d'apporter leur point de vue. Aujourd'hui, nous abordons les travaux pouvant être faits en mars. Je rappelle que l'objectif de l'association des semeurs du Lodévois-Larzac est le maintien de la biodiversité cultivée, c'est-à-dire l'utilisation d'espèces et de variétés diverses adaptées à notre contexte géographique méditerranéen. Aujourd'hui, nous accueillons deux agriculteurs des semeurs du Lodévois-Larzac, donc Ismaël Puissédu et Suzanne Cambeau. Suzanne Cambeau est productrice de plantes aromatiques et aussi parfois prépare ses plantes aromatiques. Elle est donc productrice de simples. Pour cette émission, nous allons commencer avec Suzanne qui va nous parler un peu de ce qu'elle fait dès le mois de mars.
Bon, déjà bonjour à toutes et tous. Alors, on avait déjà présenté en février les premiers semis de solanacées, par exemple. Et on peut en refaire à nouveau. On n'avait pas parlé des techniques où on peut utiliser des bacs de poissons en polystyrène, parce que ça permet d'isoler. En plus, on récupère des bacs qui seront voués à être jetés normalement. On remplit de terreau en cassant les mottes et on fait des semis on met les graines en marquant bien chaque variété, etc. Et celles qu'on a fait en février, on peut déjà les repiquer au mois de mars dans des godets qu'on remplit de terreau aussi.
Il faut bien séparer l'opération de repiquage, qui est vraiment le repiquage d'une plantule hein, dans un godet, de l'opération de transplantation qui est la mise au champ.
C'est ça, okay. Mais ça, ce sera encore le mois prochain. Ensuite, on peut faire les semis de poireaux aussi, qu'on plantera en été, là. Donc ça reste longtemps en caissette, quoi. J'appelle ça caissette, c'est quand on sème de manière dense, à peu près. Y a la plantation de pommes de terre, aussi, en plein champ. Ismaël, tu veux dire...
Ouais, bonjour. Du coup, la pomme de terre, ouais, nous, on a notre indice, c'est la floraison du lilas. Du coup, quand le lilas est fleuri, on est bon pour planter les pommes de terre.
D'accord. Donc, il faut bien regarder la floraison du lilas. Et ça revient chaque année à la même époque.
Généralement, ouais, c'est assez régulier, ouais.
Et que ça soit le lilas blanc ou le lilas violet.
Ouais, nous, on a du violet, ouais.
Mais voilà.
Ça peut être le blanc aussi, ouais.
Il y a aussi tous les semis de fleurs pour les plantes médicinales et aromatiques, mais aussi pour les fleurs coupées, je pense.
Oui, ouais.
Et
ouais.
Du coup, bah, matricaire, sauge, agastache, escoldia.
Lésinia.
Tout ça sont des plantes aromatiques ou des plantes ornementales, des fleurs...
Celles que j'ai citées, moi, c'est des aromatiques médicinales, mais pour les fleurs coupées, zinnia, faites quoi d'autre?
Les statis, les gomphrenas.
D'accord.
On peut démarrer tous ces semis-là aussi dès le mois de mars. Ouais.
Et donc, vous récoltez vos graines?
Pour une grande partie, oui.
Voilà. Donc ce sont des semences paysannes.
Voilà.
D'accord. Vous êtes pas, vous n'allez pas les acheter dans les marchés, chez les...
Parfois, ça arrive pour certaines variétés. Ouais. Donc, on va chez des producteurs comme Germinance, Biogerme. Ils ont un large choix de fleurs.
D'accord.
Et ce sont aussi des semences paysannes, quoi.
D'accord. OK.
Les variétés population, ouais.
Voilà.
Ben aussi, le mois de mars, c'est pour finir la taille, c'est maintenant, quoi.
Oui. Et il y a un proverbe qui dit « Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars ».
Ah, d'accord. Okay.
Ça veut dire que pour la vigne et les arbres fruitiers, le meilleur moment pour la taille, c'est vraiment juste avant qu'ils démarrent, quoi, quand ils sont en fin de dormance, quoi.
Donc pour les arbres fruitiers, donc on parle pas et de la vigne.
La vigne aussi, c'est un bon moment, c'est mars. En fait, sur des sols gélifs, des terrains gélifs, on peut retarder le bourgeon de presque 15 jours en taillant tard. Ouais. Donc ça veut dire que si par exemple on a une gelée début avril, ça arrive par exemple chez nous, et qu'on taille même des fois en sève, ça veut dire que le bourgeon il a démarré au bout du sarment de vigne, on le retarde d'une quinzaine de jours.
D'accord.
Donc ça veut dire que le bourgeon où on aura le raisin, il n'a pas encore démarré et il démarrera 15 jours après. Voilà.
Je fais une petite remarque là un peu générale, parce qu'on voit les gens, les ouvriers tailler dans les vignes dès le mois décembre. Hein.
C'est parce qu'ils ont beaucoup à tailler. Hein.
Ouais, quand on a 20 hectares, on est obligé de tailler tout l'hiver. Ouais.
Mais bon, quand on a un peu de, vigne, c'est mieux au mois de mars.
D'accord, ok. Bon, voilà. Donc on est sur la taille. Après, qu'est-ce que vous faites d'autre là?
Ouais, au mois de mars, on peut aussi planter les premières coriandres, moutardes et roquettes qu'on a semées au mois de février, qui sont déjà normalement bien sorties, et les mettre sous un voile de forçage, un P17, ça c'est bien comme ça, ils démarrent tout doucement, et quand viennent les beaux jours, ils démarrent vraiment, et du coup on peut déjà ramasser un peu d'épices et de salade.
Ah, d'accord, ok. Donc toujours l'utilisation d'un voile de forçage. Hein,
sur le fin d'hiver, ouais, c'est bien.
Encore des gelées. Hein.
Ouais, tant qu'il y a encore des gelées.
Mais parce que vous êtes à Octon, donc un petit peu en altitude par rapport à la vallée de l'Hérault, quoi, où c'est beaucoup plus bas, non?
Bah nous, on est à 200 mètres d'altitude. Et du coup, mais on est en fond de vallée, donc on a des gelées jusqu'au dernier moment où il y a des gelées dans la région.
D'accord.
On a des gelées, ouais.
Voilà, ok.
C'est aussi la plantation des oignons.
Ouais, là on commence les gros volets d'oignons en mars, ouais.
Voilà, ok. Vous pouvez rappeler un peu les différentes variétés d'oignons là, que vous faites là?
Alors, je vais essayer de les faire dans l'ordre, mais... On commence avec l'oignon blanc, donc ça c'est souvent du bulbi qu'on met à l'automne. Mmh. Après on a aussi du semi d'oignon blanc, ce sera le deuxième qu'on va ramasser, c'est le rebouillon il s'appelle. Et il y en a plein, hein, blanc de Paris, il y en a quelques-uns. Ensuite on arrive avec le simiane, le tropea, ensuite le lésignan, le tarassac rose, le Toulouge, qui est rentré dans la famille depuis pas longtemps. Et on a aussi, du coup, l'Amposta, qui est un super oignon de garde. On a l'oignon jaune paille, le classique. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour.
Cévennes.
Ah oui, le Cévennes, ouais, qu'on refait cette année. Le Tarassac, c'est un Cévennes, mais qui est plat. Il se conserve un tout petit peu moins que le Cévennes rond, mais il est tout aussi bon, même voire meilleur, moi je trouve.
Et donc pour revenir sur l'oignon, donc l'oignon des Cévennes, donc c'est vous allez vous approvisionner auprès des producteurs des Cévennes pour les variétés et tout ça.
Et ben là, par hasard, on est allé chercher des caisses avec Suzanne dans les Cévennes. Des caisses de stockage d'oignons. Et le monsieur, il a arrêté, il nous a donné un gros sachet de graines.
Qu'il faisait lui-même.
Voilà. Qu'il faisait lui-même, ouais. Et du coup, bah, on va semer ça, ouais. Donc on les conserve au congélateur, les graines d'oignons. Une fois bien sèches, ça se conserve très bien au congélateur. Plusieurs années, beaucoup plus que si on les met à l'air libre, ouais.
Ok.
Juste, il faut les semer assez vite après les avoir sortis du congélateur. Il ne faut pas aller les sortir et les laisser traîner dehors trop longtemps. Ouais.
Okay. Je reviens pour les plantations qui sont faites là. Donc, vous avez préparé les sols quand exactement par rapport à...
Alors, pour les oignons, on commence à préparer déjà dès février, ouais. Début février, ouais.
Ouais, donc c'est un labour, un petit labour
Nous, on griffe. On ouais. griffe avec un tracteur qui s'appelle un Saint-Chamond, un chenillard.
D'accord.
Et du coup, pour les oignons, souvent, on passe derrière une tête de rotation, donc un légume gourmand. Donc ça veut dire que le sol est déjà riche. Et du coup, on va les planter. On va commencer à planter, nous, en mars, parce qu'on en a quand même un paquet, donc on étale un peu la plantation. Mais il y a un proverbe qui dit il vaut mieux planter comme un fil au mois d'avril que comme un piquet au mois de mai. Ah, donc ça veut dire qu'un oignon, il vaut mieux le planter petit.
D'accord.
Déjà. Et ensuite, il vaut mieux le planter tôt.
D'accord.
Plus on plante tôt, moins on a à arroser aussi. Et après, pour les variétés de garde comme l'amposta et l'oignon jaune paille, ça se plante un peu plus tard. Hein.
Et donc, dans la préparation du sol, vous passez une griffe et vous plantez directement dans le sol après, voilà.
On enlève tous les résidus de culture qu'il y avait avant. Donc, moi, je passe une tondeuse sur la parcelle. Ensuite, je passe une griffe pour que ça commence à s'intégrer au sol et à disparaître, à se faire manger par le sol, en fait. Et du coup... après, je fignole au motoculteur.
Ah, d'accord.
Et une fois que j'ai un joli lit de semences, nous, on plante en 6 lignes, donc assez serré.
Ouais, okay. Et alors, vous avez employé un mot tout à l'heure qu'il faut peut-être un peu développer, les plantes gourmandes.
Ah oui, alors ouais, ça c'est... en gros, on a... Moi, je suis pas un expert, mais je... Je dirais qu'il y a trois catégories. Donc on a le gourmand, donc ça va être les courges, les pommes de terre, les solanacées, les tomates, les aubergines, les poivrons, tous les légumes, les melons aussi. Enfin, tous ces légumes-là, c'est des légumes qui prennent beaucoup de place, mais qui ont besoin de beaucoup de nourriture aussi.
Ah, d'accord.
Donc on va faire un amendement et une fertilisation un peu plus importante. Et après ça, on passe sur... souvent, nous, c'est racines. Donc, ça veut dire navets, radis, betteraves. Après, sans mettre de fumier. Voilà.
Ah, d'accord.
Sans faire d'apport. Et ensuite, on peut... Le troisième, c'est un légume-feuille. Donc, ça peut être... des épinards, de la salade, du persil, où on n'a pas besoin de faire un apport conséquent, ou alors un tout petit apport selon ce qu'on met.
Donc vous faites un apport de fumier pour les plantes gourmandes, et après, par exemple pour l'oignon, qu'est-ce que vous allez apporter là? Rien?
Ben nous l'oignon, on le plante sur une deuxième année de sol, donc ça veut dire première année... un légume gourmand, l'oignon, et après, en cours de culture, on va faire un petit apport d'engrais organique qui s'appelle l'Orga 3, et du coup, qu'on va mettre au moment où l'oignon, il est déjà bien implanté, il commence à vouloir former son bulbe, donc on voit le collet qui se détache de l'oignon, enfin, on voit que l'oignon se forme. Et là, on fait un petit apport d'Orga 3, et c'est ça qui va faire qu'on va avoir des oignons qui grossissent à ce moment-là.
Oui. Donc, globalement, pour résumer, la fertilisation, je répète là-dessus, parce qu'on n'a peut-être pas assez parlé là, dans notre pratique du potager, des pratiques de fertilisation, hein, des apports de matière organique. Hein. Donc on met vraiment des grosses doses d'apports de matière organique sur une partie des cultures, mais pour l'oignon, par exemple, on profite des apports faits par la culture précédente, et on peut compléter un peu en culture, donc avec l'engrais organique Orga 3, c'est ça?
Oui, voilà. Oui, alors il faut bien différencier fertilisation et amendement.
Oui.
C'est deux choses totalement différentes. L'amendement, on va nourrir le sol. Donc on va donner à manger au sol qui va nous le rendre après. Et la fertilisation, on va donner à manger à la plante. Donc l'amendement, c'est quelque chose qui est sur le long terme en fait. Donc quand on met du fumier dans un sol, il y a une partie bien sûr qui sera assimilable par la plante, mais il y a une grosse partie qui va surtout nourrir le sol et restituer à la plante dans un deuxième temps.
D'accord.
Et la fertilisation, c'est souvent, ça peut être soit de l'engrais organique, soit du compost.
Du purin aussi.
Purins, ouais, il y a aussi beaucoup des purins. Et du coup, ça va nourrir la plante.
D'accord. Donc, pour rappeler à tous nos auditeurs et auditrices que tous les producteurs des semeurs du Lot-et-Bois-Larzac produisent en agriculture biologique. Hein. Donc, ils n'utilisent pas des intrants de synthèse, que ce soit des produits pesticides, de contrôle des ravageurs et des maladies, ou que ce soit des engrais de synthèse. Quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup. Et donc la gestion de la fertilisation est différente dans ces systèmes-là, dans les systèmes bio par rapport aux systèmes conventionnels. Voilà, donc.
On valorise la vie du sol, quoi.
Voilà, Bon, Suzanne, vous avez encore des choses à dire là sur votre activité là au mois de mars?
Après moi c'est le début des cueillettes, mais ce sera plus les bourgeons, parce que je fais de la gémothérapie qui est une...
Vous pouvez en dire un mot quand même. Hein.
C'est une pratique où on ramasse les bourgeons des arbres surtout, et c'est une branche de la phytothérapie assez récente, et qu'on met ensuite dans un solvant d'alcool, d'eau et de glycérine. Et donc là au mois de mars, on a beaucoup d'arbres qui démarrent. Comme le peuplier, figuier, l'arbre de Judée, sorbier domestique, platane.
Et vous allez où pour récolter tout ça?
Autour de chez moi, il y en a beaucoup sur mes terrains aussi, et je demande des autorisations à chaque fois que je ramasse chez d'autres personnes.
D'accord, mais les arbres sont hauts, vous grimpez dans les arbres?
À peu près, oui, c'est ça.
Bon. Ok. Donc oui. Ça, c'est une grosse activité. Mais les bourgeons, il faut les utiliser tout de suite.
Voilà, c'est ça. Donc, je me déplace avec mes bocaux de solvant et je mets tout de suite mes bourgeons dans ces solvants-là.
On va terminer ici notre émission du mois de mars, hein, du jardin et potager. On est un peu sorti du potager, là. On est parti dans la cueillette des bourgeons. Donc, voilà. Et nous avons eu le plaisir d'accueillir et d'écouter donc nos amis du semeur du Lot-et-Bois, Ismaël et surtout Suzanne, qui nous a parlé un petit peu plus, mais pas tant que ça, de son métier de spécialiste des plantes aromatiques et de cueilleuse dans la nature. Hein. Donc c'est pour dire qu'il y a encore une place dans notre société pour des personnes vivantes en étroite symbiose avec la nature, qui en prélève une infime partie, hein, les bourgeons de quelques plantes, les arbres sont grands, hein, mais en faisant attention, bien évidemment, à préserver les ressources pour les années futures. C'est très heureux, et je la félicite au nom de tous pour cette activité. Hein, voilà. Petite remarque un peu générale, n'oublions pas que nous devons toujours rechercher une plus grande autonomie de notre individu, notamment pour notre alimentation, mais aussi pour la préservation de notre santé. Nous remercions ici toute l'équipe de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud qui nous permet de nous exprimer chaque mois. Maëva, Samuel, Axel, une nouvelle Julie et Pablo que je n'ai pas vu. Voilà. Merci à tous. Au revoir, à bientôt.